Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroire. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Rabolio, de Maurice Genevoix. L'expérience de la guerre vécue par Genevoix d'août 1914 jusqu'à sa grave blessure en avril 1915 marque ses premières œuvres. Mais c'est avec Rabolio, roman qui lui vaut le prix Goncourt en 1925, qu'il se tourne vers un autre cadre, la nature. Ici, les paysages de Sologne, et adopte un autre ton pour les chanter, ainsi que le monde animal. Il raconte l'histoire d'un braconnier, Pierre Fouque, bûcheron solognaud, que tous surnomment Rabolio, qui est animé par une seule passion, la chasse et le braconnage. Une rabolière est un gîte de lapins de garenne. Épris de liberté, il refuse de se soumettre à la loi représentée par les figures du garde-chasse et du gendarme. Au jeu du chat et de la souris, la roue tourne pour Rabolio qui est pris la main dans le sac. Il doit alors fuir et se cacher. Il finit par tomber dans un piège, telle une bête traquée. Et fou de colère, il commet un geste irréparable contre le gendarme qui le poursuivait. Rabolio devient alors un criminel. Il sera arrêté. Autour de Rabolio se déploie toute une galerie de personnages. Il y a Tancogne, le fermier général du comte, qui chasse illégalement sur les terres de ces derniers et voit en Rabolio un ennemi irréductible. Il est accompagné pour toutes ses basses besognes de Vola, dit Malcourtois, un bétayer peu sympathique. Il y a aussi l'étrange Delphine, si frêle qu'on la surnomme la souris, sans oublier Sandrine et les enfants, sa famille qu'il ne peut abandonner. Face à lui, le gendarme Bourrel qui, vexé que le braconnier lui ait échappé, le poursuivra impitoyablement. À travers cette histoire de braconnage, Maurice Genevoix dépeint la société solognotte et célèbre la nature sauvage, encore peu domestiquée par l'homme au début du XXe siècle. Cette nature mystique entre en fusion avec le personnage de Rabolio, homme libre qui ne connaît pas de maître et a toujours refusé de se soumettre à un quelconque ordre établi. On partage avec lui les bruits, les odeurs, les beautés de cette vie libre, mais aussi ses dangers. De nombreux romans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale s'inscrivent dans cette veine, comme Les Compagnons de l'Aubépin en 1937 ou La Dernière Harde, 1938, de tonalités plus nettement poétiques qui célèbrent la noblesse et la beauté de l'animal sauvage. Maurice Genevoix est né le 29 novembre 1890 dans la Nièvre et passera une enfance heureuse dans l'Orléanais au sein d'une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Descendant d'un ancêtre genevois catholique ayant fui la Genève calviniste vers 1550 pour rejoindre la Creuse et dont le patronyme prend alors un X final, Maurice Genevoix est issu d'une famille de médecins et de pharmaciens par sa lignée paternelle. Alors qu'il n'a que 12 ans, sa mère meurt en 1903 d'une attaque cardiaque. De cette perte, il gardera une éternelle déchirure, qui transparaîtra dans plusieurs romans. Il trouve cependant un réconfort sur les bords de la Loire, où il passe son temps libre. Destiné à une carrière de professeur, il met ses rêves de peinture de côté et entre à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 1911. Devenu normalien, il étudie Maupassant, qu'il apprécie pour la simplicité de son écriture. Mais en 1914, il est contraint d'interrompre sa scolarité et part combattre dans les tranchées. C'est de cette terrible expérience que naîtront ses récits les plus connus et réunis dans « Ceux de 14 ». Le 21 avril 1915, il échappe à la mort lors d'un combat sur la colline des Éparges, dans la Meuse, mais il est grièvement blessé et perd l'usage de sa main gauche. C'est à la fin de la guerre que Genevoix se détourne d'une potentielle carrière dans l'enseignement, refusant de passer l'agrégation pour se consacrer à l'écriture. Une écriture qui témoigne d'abord de son expérience des combats, ainsi que de celle de ses camarades, ne pouvant plus témoigner. En 1925, Genevoix obtient le prix Goncourt pour son roman Rabolio, retraçant les aventures d'un braconnier de Sologne traqué par un gendarme. Le 25 août 1937, Maurice Genevoix épouse Yvonne-Louise Montrosier, 1908-1938, médecin originaire de Saint-Victor-et-Melvieux, près de Sainte-Afrique, qui meurt l'année suivante. De juin 1940 à début 1943, il quitte Les Vernelles, sa maison du Val-de-Loire, en zone occupée, pour s'installer à Aveyron, chez ses beaux-parents. Il épouse le 27 février 1943 Suzanne Nérol, 1911-2012, veuve déjà mère d'une fille prénommée Françoise, puis rejoint Les Vernelles, qu'il retrouve saccagé. En 1944, naît sa fille Sylvie, qui se mariera en 2007 avec Bernard Maris, économiste et écrivain, assassiné le 7 janvier 2015 à Paris, dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, Maurice Genevoix est élu à l'Académie française. Il en deviendra même secrétaire perpétuel à partir de 1958, mais démissionnera de ce poste en 1974 pour se dédier pleinement à l'écriture. En 1972, Genevoix publie « La mort de près », qui revient sur son expérience de la Grande Guerre. Plus d'un demi-siècle plus tard, il est encore hanté par ce qu'il a vécu. Maurice Genevoix s'est éteint en 1980, à l'âge de 90 ans. Sur décision du président de la République française, Emmanuel Macron, le cercueil de Maurice Genevoix entre au Panthéon le 11 novembre 2020. Ils traversèrent une pinerée de maritimes. Des coupes anciennes n'avaient laissé là que de beaux arbres espacés, entre lesquels jouait la lumière et flottait un air libre, baigné d'arômes. Rabolio aspirait les odeurs de la nuit, celles des pousses vertes, celles des essences légères que diffusait la sève, et celles des feuilles tombées qui feutraient le muscat, et il sentait passer aussi l'odeur des champignons soulevant du chapeau la jonchée des aiguilles, une autre odeur encore imperceptible, où se mêlait un relent de suie froide et des fumées vivantes des tables et de porcheries. Il évitait les souches blessantes, parfois heurtait du pied une pomme de pin écailleuse et sèche qui roulait en grelottant, ou bien sentait sous sa semelle s'écraser une russule croquante, un lactaire mou qui suintait. Des souvenirs affluaient par longues vagues, toutes les odeurs des bois, l'âcreté du terreau mouillé, sur quoi fermentent les feuilles mortes. Les souvenirs affluaient par longues vagues. Toutes les odeurs des bois, l'âcreté du terreau mouillé, sur quoi fermentent les feuilles mortes. Les effluves légers des résines. L'atome farineux d'un champignon écrasé en passant. Tous les murmures, tous les froissements, toutes les envolées dans les branches. Les fracas d'ailes traversant les futaies. Les essors au ras des sillons. Et tous les cris des crépuscules. La crécelle rouillée des coqs faisans, les rappels croisés des perdrix, les piaulements courts des tourtes plates, et, déjà dans la nuit commençante, ce grincement qui approche et passe à frôler votre tête avec le vol de la première chevêche en chasse. Cette hardiesse à la fin prévalait. Quand on est Rabolio, on ne s'embarrasse pas de raisons compliquées, telles qu'en ont les notaires, les juges de paix, les traînes paillasses. Il y a simplement des choses que l'on ne comprend pas, dont on ne peut pas tenir compte. Qu'est-ce que c'est que le droit à la chasse? Il y a l'instinct de la chasse, le besoin de chasser selon le temps et la saison, d'obéir aux conseils éternels qui vous viennent de la terre et des nuages, aux ordres clairs qui montent en vous avec la même lenteur paisible que la lune blanche sur les champs. Le cœur se met à battre. Une angoisse légère vous point au creux de la poitrine, pareille un peu à celle de l'attente amoureuse. Tant mieux si les hommes s'en mêlent, si l'attrait du danger vient à surgir à cause des hommes. On en avait besoin. Les bêtes des sillons et des bois ne vous peuvent donner que leur ruse craintive. On avait besoin, sans le savoir, de jouissances plus dangereuses et plus âpres, et voici que d'elle-même, elle se jetait vers vous. Tant mieux, on allait s'amuser. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.